France Inter.
Bonjour à tous. Pas de trêve estivale pour les parlementaires. Débats enflammés par la loi Duplomb. En ce moment, la gauche veut abroger. Encouragée par une pétition record, plus d'un million de signatures en quelques jours, les défenseurs du texte dénoncent une instrumentalisation du débat politique. Enfants et jeunes adolescents privés de soirées d'été à partir de ce soir, couvre-feu dans certaines rues de Nîmes. Après plusieurs fusillades, on y sera. Le ministre des Affaires étrangères en visite en Ukraine avec le président Zelensky et reportage avec les soldats de la brigade Anne de Kiev, trop peu nombreux pour bien opérer les canons César français. Le premier ministre japonais qui s'accroche, bien que désavoué ce week-end après une poussée de l'extrême droite dans les urnes. McDo, KFC, Burger King, la malbouffe partout dans les rues de Rouen et puis les vacances sous la pluie, on fait avec à Montlouis en Indre-et-Loire. 1 300 000 signatures. Jamais une pétition n'avait donc autant rassemblé sur le site de l'Assemblée nationale pour demander l'abrogation de la loi agricole Duplomb, récemment adoptée mais pas encore promulguée. Bonjour Lise Roseveille.
Bonjour.
À mesure que le compteur des signatures s'affole, la pression monte chez les parlementaires. Finalement, loin d'être en vacances, hein, la gauche promet de tout faire pour rediscuter en profondeur du texte à l'automne. Et ce matin, les défenseurs du texte contre-attaquent.
Oui, ils accusent la gauche et les écologistes d'attiser la peur. Le sénateur Laurent Duplomb, à l'origine du texte, dénonce même une instrumentalisation de la pétition pour faire pression sur le Conseil constitutionnel. Son collègue, secrétaire général adjoint des Républicains, Pierre-Henri Dumont, y voit, lui, une tentation de contourner le Parlement.
Ceux qui ont perdu dans les règles parlementaires, dans les règles de droit de notre pays, cherchent à inverser le cours des choses, en jouant non pas sur la réalité des faits, mais sur des craintes supposées. En fait, on sort du champ de la raison pour arriver dans le champ de la passion.
C'est de la désinformation massive organisée, s'insurgent les partisans du texte. La porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, ce matin sur France 2, tente de calmer le jeu et de rassurer les Français.
Il ne faut pas non plus affoler les populations. Il y a autour de la réintroduction de ce produit beaucoup de précautions qui sont prises, beaucoup de dérogations qui sont prises. Il faut regarder son texte dans l'ensemble et si un débat vient clarifier tout cela, eh bien tant mieux.
Mais la gauche, revigorée par cette pétition record, ne compte pas s'arrêter là. La députée écologiste Sandrine Rousseau veut continuer à mettre la pression.
C'est le début d'une lutte qui ne fait que commencer et le camp du NFP ne lâchera pas l'abrogation de la loi Duplomb.
Preuve de la tension qui règne, les menaces se multiplient contre les députés qui ont voté la loi Duplomb et le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, demande plus de fermeté au procureur pour y répondre.
Lise Roseveille, service politique de France Inter. La loi Duplomb prévoit notamment la réintroduction sous condition de pesticides, de l'acétamipride, notamment connu déjà pour sa toxicité sur les abeilles. Bonjour Grégoire Le Callot.
Bonjour.
Mais ça pourrait aussi être dangereux pour l'homme, et là vraiment c'est pas clair.
Oui, une étude a eu un effet signal d'alarme, elle a été publiée en 2022, elle a été menée par une équipe suisse sur 14 enfants et chez 13 de ces 14 enfants les scientifiques ont eu la mauvaise surprise de trouver des traces d'acétamipride dans le liquide qui baigne nos cerveaux et nos moelles épinières. Alors pourquoi c'était une surprise? Eh bien parce que jusqu'à cette étude, il était admis que les néonicotinoïdes ne franchissaient pas la barrière physiologique qui protège nos cerveaux. Une telle conclusion relance les soupçons de toxicité de ces produits sur le développement cérébral. D'autres études encore plus récentes alourdissent le dossier d'accusation, notamment en Chine et au Japon. Et pour la population française, une cohorte de suivi épidémiologique appelée ELF a trouvé de l'acétamipride presque dans la moitié des cheveux d'enfants suivis. L'ANSES et Santé publique France s'apprêtent à lancer une vaste étude nommée ALBAN qui inclura plus de 3000 personnes.
Et pourtant, pas de veto, en tout cas pour le moment, Grégoire, de l'Agence de sécurité alimentaire européenne.
Oui, l'année dernière, suite à l'étude suisse, l'Agence européenne s'est penchée à nouveau sur l'acétamipride et elle a maintenu son autorisation jusqu'en 2033, date à laquelle le produit devra avoir fait l'objet d'un réexamen complet. Pourtant, l'EFSA elle-même a reconnu, je cite, des incertitudes majeures sur la toxicité pour le cerveau. Elle demande plus de données sur les effets de l'acétamipride pour une évaluation appropriée des dangers et des risques, je cite toujours. Malgré ces doutes, elle a donc maintenu son autorisation, tout en demandant une division par 5 des doses journalières acceptables, ce qui a été accordé par la Commission en septembre 2024. une mesure de précaution jugée insuffisante par la communauté scientifique qui estime que les incertitudes soulevées sont incompatibles avec le maintien du produit sur le marché.
Grégoire Le Callot, spécialiste santé à la rédaction de France Inter. Le monde agricole et précisément les éleveurs, par ailleurs, confrontés cet été à la dermatose, ce virus extrêmement contagieux chez les bêtes. Une quarantaine de foyers a été répertorié en quelques semaines à peine dans les Alpes. C'est la règle, hein. Une vache contaminée, c'est tout le troupeau qui doit être euthanasié. Et même si les premiers vaccins arrivent, ça ne suffit pas à rassurer jusqu'en Mayenne au lendemain des fêtes de la Madeleine, Sarders.
Orne, Najot et Takata vont bien, pas de symptômes.
Pour l'instant, ça se tient à la Savoie, tant mieux pour nous.
Cassandra Thésée reste prudente, elle s'installe en septembre à Lignières-Orgères avec 75 vaches laitières.
S'il y a abattage de cheptel, c'est arrêt d'activité, on n'a plus de boulot. Pour le coup, on est au chômage technique. Hein.
Derrière les vaches tuées, c'est le travail de plusieurs vies. La dermatose nodulaire contagieuse se transmet par des piqûres d'insectes.
Moi qui ai la cinquantaine aujourd'hui, si demain tous les 30 ans de carrière devaient s'en aller comme ça, je pense que je lui ferais mal. Mais...
Franck Oudemont, éleveur de race limousine à Pomérieux.
Peut-être, mais si ça prend un peu d'ampleur, on va pas décimer tout le troupeau français. Quoi.
La solution, c'est la vaccination obligatoire, selon Aude Le Quertier, éleveuse dans la Manche de race normande.
Dans certaines zones, y a les vaccins qui arrivent et je crois qu'en tant qu'éleveur, faut pas se poser la question. Quoi.
La dermatose, une inquiétude aussi en pleine période des concours des comices agricoles. Florent Renaudier, président de la FDSEA de la Mayenne.
On est sur le salon de la Madeleine, donc avec beaucoup, énormément d'éleveurs, donc c'est sur toutes les bouches. Voilà, donc le message prévention, prévention, prévention. Donc insectisation des animaux de façon régulière dans nos élevages.
La FDSEA 53 a demandé un rendez-vous cette semaine à la préfecture pour anticiper, éviter et contenir la propagation de la dermatose.
Sarah Dercy, c'est Mayenne, ex-France Bleu. 285 000 bovins doivent être vaccinés à terme, selon le ministère de l'Agriculture, qui rappelle l'interdiction de déplacer les animaux pour éviter de faire voyager les mouches, notamment responsables de la transmission de la maladie. Les moins de 16 ans, à la maison, couvre-feu, officiellement mis en place ce soir à Nîmes, dans le Gard. Les enfants, jeunes adolescents des quartiers populaires, interdits de rester la nuit dans les rues, sauf s'ils sont accompagnés d'un adulte. Bonjour Marion Aquilina.
Bonjour.
Ce n'est pas la première fois qu'une telle mesure est instaurée en France. Est-ce que c'est efficace?
Un couvre-feu pour les jeunes de moins de 13 ans, c'est surtout une mesure de bon sens, selon le maire de Viry-Châtillon, dans l'Essonne, où ça fait 7 ans maintenant que ça existe, entre 22h et 6h pendant les vacances d'été. Et il y a moins d'enfants qui traînent dans les rues, c'est le constat du maire Jean-Marie Villain.
C'est très difficilement quantifiable parce qu'il y a beaucoup de rues dans Viry, il y a 90 km de voirie. Alors vous imaginez bien qu'on n'est pas là à compter le nombre d'enfants. Et c'est vrai que le fait de ne quasiment pas en avoir eu à raccompagner, en particulier cette année depuis avril, montre bien qu'il y a peut-être une prise de conscience qui a été une réalité. Ce qui m'intéresse moi le plus, c'est de me dire la place d'un enfant de 13 ans, elle n'est pas dans la rue parce que c'est dangereux. Ça peut être dangereux pour lui, mais ça pourrait être dangereux n'importe où, dans n'importe quelle ville.
À Nice, par exemple, où la ville a pris un arrêté instaurant un couvre-feu, le procureur Damien Martinelli explique qu'il est compliqué d'établir un bilan précis, mais qu'il s'agit d'un outil pertinent et utile. Il ajoute que depuis la loi Attal sur la justice des mineurs du 23 juin 2025, l'obligation de respecter un couvre-feu peut être prononcée individuellement pour un mineur délinquant comme une mesure éducative judiciaire. Mais pour revenir à cette question des arrêtés municipaux, un autre parquet du sud de la France est plus sceptique sur l'utilité du dispositif et estime qu'il s'agit souvent d'un affichage politique.
Marion Aquilina, le couvre-feu entre en vigueur chaque soir à 21h à Nîmes jusqu'au lendemain 6h pour les deux prochaines semaines. Lui était connu pour trafic de stupéfiants. Un jeune homme de 19 ans est mort cette nuit à Toulouse, en Haute-Garonne. Les secours appelés pour blessures à l'arme blanche se sont rendus compte sur place qu'il s'agissait de plaies par balles. Deux suspects ont rapidement été interpellés. La présidente de la cour d'assises du Tarn ordonne un supplément d'informations pour auditionner l'ex-petite amie de Cédric Jubilard, celle-là même qui assurait il y a 10 jours que l'accusé lui avait confié avoir étranglé son épouse Delphine, disparue il y a maintenant 5 ans à Cagnac-les-Mines. Le procès de Cédric Jubilard, qui a toujours clamé son innocence, doit s'ouvrir au mois de septembre. La piste du drame familial privilégiée ce matin. 3 personnes ont été retrouvées mortes, un couple et leur fille, dans la petite commune de la Bâtie-Neuve. C'est dans les Hautes-Alpes. Il s'agirait d'un double homicide des 2 femmes, suivi du suicide de l'auteur, précise la procureure de Gap. L'enquête pour homicide volontaire se poursuit. Le ministre des Affaires étrangères, bien arrivé à Kiev ce matin, début d'une visite de 2 jours pour Jean-Noël Barrot. Il doit notamment rencontrer le président Volodymyr Zelensky, après l'adoption par la France et l'Union européenne d'un nouveau train de sanctions jugé inédit contre le régime russe. Alors que sur le terrain, les combats se poursuivent, la brigade Anne de Kiev, équipée et entraînée par la France, se montre plus que jamais mobilisée dans l'est du pays, visée ces derniers mois par plusieurs polémiques entre abandon de postes massifs et corruption latente. Le chef d'état-major se doit en ce moment de redorer le blason. Reportage avec les hommes de la 155e brigade mécanisée. Bastien Bory.
Le canon César est en ordre de tir niché dans un bosquet. Soudain, à 2 km en arrière, la base de commandement détecte une incursion. Un groupe de soldats russes est en approche.
Feu !
Ce qui intrigue en observant le César, c'est le peu d'hommes présents pour l'opérer. Un pour ajuster les paramètres de tir, un autre pour charger les obus, une seule équipe de nuit, une seule de jour. Une fois le calme revenu, nous interrogeons le commandant sur les désertions dans ses rangs.
La seule chose que je puis vous dire, c'est que cette brigade fait son travail à merveille.
À l'origine décriée et mal équipée en matériel de guerre électronique, la 155e brigade mécanisée se reconstruit progressivement et confesse ses erreurs par la voix de son officier de presse.
Au début, on manquait vraiment d'officiers, ce qui a provoqué une vague de désertion avant même que la brigade n'arrive au combat.
Quant au cas de corruption, les enquêtes toujours en cours ciblent la haute hiérarchie. Le commandant Maximov est visé pour des pots de vin. Le lieutenant-colonel Shumsky est en détention pour avoir perçu des primes de combat fictifs. Le colonel Ryumchin a été arrêté pour avoir inclus des individus à haut risque dans la formation en France. Lui risque jusqu'à 10 ans de prison.
S'il y a des cas de corruption qui apparaissent aujourd'hui, le nouveau commandement sévit sans pitié. Cette brigade n'est pas devenue le maillon faible de l'armée ukrainienne.
Ces quelques jours passés sur le front laissent en effet le sentiment d'une brigade coordonnée. Un signal encourageant pour une armée ukrainienne en souffrance. Est de l'Ukraine, Bastien Bory, France Inter.
Des familles bédouines évacuées de Soueda par les autorités syriennes ce matin, elles profitent du cessez-le-feu aujourd'hui en vigueur pour quitter la ville à majorité druze après de violents affrontements qui ont récemment fait plus d'un millier de morts selon les ONG sur place. Au Japon, le Premier ministre ce matin sans aucune majorité dans les deux chambres du Parlement après une défaite cuisante, largement battue hier aux élections sénatoriales. Karine Nishimura.
Partira ou partira pas, à ce stade, nul ne le sait, pas même le Premier ministre en personne. Certes, Shigeru Ishiba a affiché sa volonté de se maintenir en arguant que son PLD, Parti libéral-démocrate, reste, malgré la défaite, la première formation en siège au Parlement. Et à ce titre, dit-il, il a des missions à remplir, à commencer par mettre en œuvre les politiques promises et d'insister sur le risque d'un vide du pouvoir au moment où il est plus que jamais nécessaire de trouver un accord avec Donald Trump sur les droits de douane punitifs sur les produits importés du Japon aux États-Unis. Mais dans l'omnipotent PLD, parti divisé en clans, le chef n'est pas le seul à décider et le Premier ministre l'a lui-même reconnu. De nombreuses discussions vont avoir lieu en interne. On sait déjà que des ténors faiseurs de rois ne sont pas d'accord. Le Premier ministre n'est certes pas parti de lui-même, mais il est quand même en sursis. Tokyo, Karine Nishimura, France Inter.
Trop de gras, trop de sucre, c'est la journée mondiale de lutte contre la malbouffe. 3 Français sur 10 se laissent tenter par des burgers, pizzas, tacos au moins une fois par mois et la demande commande l'offre. Les restaurants rapides pullulent comme à Rouen, Théophile Pedrola, 6e ville de France selon l'organisme Smapen avec le plus de fast-food par habitant.
3 McDonald's, 1 Burger King, 4 Subway, 2 KFC et plusieurs dizaines de kebabs, tacos, pizzeria, Rouen fait la part belle au fast-food, au plus grand plaisir d'Arthur, 13 ans, qui les fréquente.
Tous les 3 jours, les tacos, hein. Tenders, cordon bleu, ouais, je kiffe.
Et oui, les jeunes, collégiens, lycéens et étudiants sont majoritaires, avec leur grec dans les mains le soir, mais il y a aussi quelques plus âgés, comme Nicolas, 55 ans.
C'est hyper exceptionnel parce que ce soir, je suis hyper charrette, j'ai pas le temps, mais c'est pas du tout dans mes habitudes culinaires. Je suis une vieille génération, donc on a été élevé au kebab, au grec, voilà.
Sur la place Cauchoise à Rouen, se bat en duel 6 kebabs, parmi lesquels le palmier, Sofiane, y est serveur et ça ne désemplit pas.
C'est correct, on peut dire. Un peu de tous les âges, des jeunes, des personnes plus âgées.
vraiment tous les âges. Bah, le Royal Kebab ou le kebab simple. Hein. Ou les tacos, nous les tacos. Après, ça dépend, voilà, de la journée, le soir.
Interrogée, la mairie indique que la restauration rapide a beaucoup évolué ces dernières années, avec une demande croissante, notamment d'étudiants. Il y en a plus de 50 000 à Rouen, un chiffre en hausse constante. Mais la ville indique aussi avoir déjà utilisé un droit de préemption dans les secteurs où il y a trop de kebabs installés, citant l'exemple d'une boulangerie sur la rive gauche ou l'installation de commerces alternatifs en cours.
Théophile Pedrola, ça plane pour Ryanair. La compagnie low cost double son bénéfice net, 820 millions d'euros au premier trimestre, et se félicite d'une hausse du trafic de 4%, 58 millions de passagers. Vous étiez nombreux sur les routes aussi hier, week-end de chassés-croisés et début des vacances à l'arrivée en Indre-et-Loire. Humide, plus d'alerte, orage, inondation ce matin en France, on verra ça dans la météo, mais la pluie bien présente, hein, Chloé Lavoisard, pour accueillir les vacanciers à Mont-Louis.
Ce n'est pas la pluie qui enlèvera son sourire à Afid, il a fait la route depuis Lens dans le nord et vient d'arriver en famille.
On est habitué à la pluie donc ça va, il n'y a pas de discothèque, de bar le soir, c'est tranquille, c'est calme, c'est familial et au moins on peut dormir.
Dormir, ce n'est pas exactement le programme de sa fille, Neila. Elle, il y a une chose qu'elle attend.
La piscine, c'est quand je fais les toboggans et quand je saute dans l'eau.
Et ce n'est pas la seule à profiter du camping pour s'amuser. Hier, c'était l'anniversaire de Stéphane, 56 ans, et devant son camping-car, un tapis de bouteilles vides.
On était 17 personnes, quoi. On a pris l'apéritif, on a mis en route le barbecue, et puis forcément, on parle un peu plus fort, tout ça, et on n'a pas vu l'heure, et l'heure tournait. Résultat, il y a eu beaucoup de plaintes à l'accueil. J'espère que les voisins m'en veulent pas trop.
Heureusement pour lui, la plupart des voisins sont compréhensifs. D'ailleurs, quelques emplacements plus loin, c'est au tour de Hervé et de sa femme Dani de faire un peu de bruit.
Il y a eu une très belle soirée avant-hier, une soirée karaoké.
Vous avez poussé la chansonnette ?
Bah évidemment, on est là pour ça. J'ai même mis un petit coup d'harmonica, mais voyons.
Chloé Lavoisard, ici Touraine. Et puis les coureurs du Tour de France en vacances dans le sud de la France. C'est repos aujourd'hui après un harassant week-end dans les Pyrénées. Le Slovène Tadej Pogacar plus que jamais en jaune avec 4 minutes d'avance sur son premier rival Jonas Vingegaard. Le premier français Kevin Vauclin est 5e. Julien Alaphilippe 52e malgré sa belle 3e place hier. Dans un instant la météo.
La météo avec l'alarme Vérissure. Détectez et mettez en fuite les intrus dès le jardin grâce au nouveau détecteur extérieur vidéo. Rendez-vous vite sur verissure.fr.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Un temps plus frais avec des averses.
Oui, de la Normandie vers le nord de la Seine, la région parisienne, le centre Val-de-Loire et le nord-est, on a pas mal de nuages, des averses. Ça n'empêche pas quelques petites éclaircies de temps en temps, mais un orage est possible également. Les éclaircies deviennent un peu plus belles en allant vers l'océan et vers le sud-ouest également, vers le massif central, le nord de Rhône-Alpes. Des averses moins nombreuses sur ces régions. Le vent souffle jusqu'à 50 à 70 km à l'heure sur l'ensemble de ces régions. Pour avoir davantage de soleil, direction les Pyrénées, le sud de Rhône-Alpes et surtout la Méditerranée, où là la tramontane souffle jusqu'à 50 km à l'heure. Température un petit peu fraîche, hein, souvent 2 à 4 degrés sous les moyennes de saison. 20 à 25 degrés au nord, 26 à 29 au sud le plus souvent, jusqu'à 29 à 33 sur le sud-est. Demain, on aura encore pas mal de nuages au nord avec quelques averses. Le soleil prendra l'avantage au sud. Il y aura du vent en Méditerranée qui sera fort sur le nord de la Corse avec de fortes vagues. Prudence demain.
Élodie Calac, Météo France, merci beaucoup.